Certains ont été surpris quand j'ai dit que Dieu ne pardonne pas l'homme, mais son péché. Et peut-être que nous allons, il n'y a pas de PowerPoint ce soir, on va prendre des Bibles, elles sont là, et nous allons lire ce soir des textes pour confirmer ou appuyer. Bien. Merci. Pardonner, c'est enlever, c'est abolir, c'est détruire, c'est faire disparaître. Et c'est pour cela que Jésus est venu dans le monde, et nous avons lu d'ailleurs le texte hier, qu'il a apparu pour abolir le péché. Il s'est révélé une seule fois pour faire quoi ? Pour abolir le péché par son sacrifice. Et c'est ce qui fait que lorsque Dieu pardonne, ce n'est pas l'homme, mais son péché. Alors là, nous allons lire quelques textes qui confirment donc ce que nous avons dit. Premier texte, alors on va lire, parcourir l'Ancien Testament déjà. Genèse chapitre 50, verset 17. Genèse chapitre 50, verset 17. À ma gauche, là, tiens quelqu'un qui lit. Ah, tu as la gauche, toi aussi? Bon, ben vas-y, hein, on va prendre la droite après. Vas-y, 50, verset 17. Merci, tu peux t'arrêter là. Les frères de Joseph lui ont fait du mal. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Ils l'ont mis dans une citerne, ils l'ont vendu. Vous connaissez l'histoire. Le texte nous dit, pardonne à Joseph, pardonne à tes frères. Est-ce que c'est ce que le texte dit? Qu'est-ce qu'il dit le texte? Pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, pas leurs frères. Pardonne leurs crimes et leurs péchés. Exode, pas Genèse, Exode. Exode chapitre 10, versets 16 et 17. À gauche cette fois. Hein. Exode chapitre 16, 10, versets 16 et 17. Exode, allez-y, vous pouvez lire. Merci. Pharaon même. Pharaon dit, il reconnaît ce qu'il a fait. Et il dit à Moïse, j'ai péché contre l'Éternel. Donc, j'ai péché contre l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais pardonne quoi? Moi? Pardonne-moi? Non. Pardonne quoi? Mon péché. Pas moi. Mon péché. Josué. Alors, il y a d'autres textes dans l'Exode, mais on fait un petit parcours. Josué, chapitre 24, verset 19. Josué 24, 19. 19. Quelqu'un dans le milieu, là, venu, ça. Josué 24, 19. Pour qu'on soit ensemble. Oui, vous pouvez y aller. Ils ne pardonneront point quoi? Le peuple? Non. Vos transgressions et vos péchés. Le peuple n'a jamais de problème. Dieu, c'est important pour nous de bien comprendre ça. Dieu n'a jamais de problème avec vous. Ça ne vous fait pas du bien de savoir ça? Ça ne vous fait pas du bien de savoir que Dieu n'a pas de problème avec vous? 1 Samuel, chapitre 25, verset 26. Il y a d'autres textes, mais c'est bon. 1 Samuel 25, verset 28. 1 Merci. Là encore, Abigail, elle dit, pardonne quoi? Je te prie, la faute. Pas ta servante. Ne pardonne pas ta servante, mais pardonne la faute de ta servante. 2 Samuel, chapitre 12, verset 13. Il s'agit de Nathan et de David et Nathan. Vous connaissez l'histoire aussi. Allons-y, David. David a commis un péché. Et Nathan ne dit pas à David, l'Éternel te pardonne. L'Éternel pardonne quoi? Ton péché, pas toi. Nous pourrons ainsi lire tout le texte, tout l'Ancien Testament, tous les livres de l'Ancien Testament, et nous trouvons toujours cette même idée. On va peut-être aller plus loin. De Chroniques, Job, Somme 25, verset 11. Somme 25, verset 11. Vas-y, allez-y. Tu connais leur complot pour me faire mourir. Donc, Jérémie qui parle. Le complot de ceux qui veulent le faire mourir. Mais il ne dit pas pardonne-leur, mais pardonne leur péché. Pardonne leur iniquité. Pas eux. Ne pardonne pas eux, mais leur iniquité. Lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, il y a dans Matthieu 6, 12, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, leurs offenses aussi. Mais pardonne-nous nos offenses, pas pardonne-nous. Matthieu chapitre 9, verset 6. Alors ça, c'est avec Jésus. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner aux hommes, pardonner les péchés. Et nous pourrions continuer tout le Nouveau Testament de la même façon. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, pour finir avec cette notion. 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, non? C'est ça? Pourquoi? Pour nous les pardonner, nos péchés, pas nous. Il est important de comprendre parce que, puisque pardonner, c'est enlever, bannir, abolir, si Dieu pardonnait le pécheur, aucun de nous ne serait là ce soir. Aucun. Okay. J'aimerais nous poser une question. Qu'est-ce que le péché? Pardon? Ça, c'est les conséquences, c'est parole de Dieu. Oui. Transgression de la loi. Il y a effectivement le texte biblique qui nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Est-ce que quelqu'un a une autre définition du péché? Pardon? Très bien. Alors, on va essayer de nous rappeler comment le péché est entré dans le monde. 1 Timothée 2, 14 nous dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. La transgression de la loi est la notion la plus courante que nous avons du péché. C'est transgresser la loi. Mais elle n'est pas la seule. Lisons ce qui est dit, et d'ailleurs, Frère Eliot l'a dit tout à l'heure, Jacques 4, verset 17. Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Il y a des personnes qui disent, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne commets pas l'adultère. Donc, tout va bien. Est-ce que ça va? Ça ne va pas forcément bien. Parce qu'il est possible qu'il y ait des choses que l'on sait être bien et qu'on ne fait pas. Et le texte biblique nous dit que dans un cas aussi, on commet un péché. Nous avons un exemple avec le jeune homme riche. Et quand Jésus lui dit, tu connais le commandement, observe. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai observé toutes ces choses dès mon enfance. Voilà un jeune homme qui est parfait. Parce que il ne transgresse pas la loi. Or, à la fin du récit, il s'en va tout triste. Pourtant, il est venu tout bouillonnant, demander à Jésus, mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc, il la veut, cette vie éternelle. Il observait la loi, et pour lui, il était sûr qu'en observant la loi, en ne péchant pas, par la transgression de la loi, Jésus allait lui dire, ben c'est bon. C'est bon, tu as réussi. Mais non. Jésus, il t'en manque une chose. Il lui manque quoi? Il lui manque quoi? Oui? Oui. Faire du bien aux autres. Va, vends, donne. Sois généreux avec les autres. Aie compassion des autres. Fais du bien aux autres. Et là, c'est trop. Et il s'en va tout triste. La question ce soir, c'est est-il possible de vivre sans péché? Alors, je remets vous en train un petit peu. Quelle est votre réponse à cette question? Est-il possible de vivre sans péché? Pardon? Qui a dit non? Vous avez dit non. Très bien. Donc, qui dit non? Ok. Qui dit oui? Il y a des mecs qui ne sont pas levés. Il y a trois, il y en a quatre, il y en a cinq qui disent oui. Oui, mais j'ai vu, il y en a quatre, cinq qui disent oui. Bon. Ceux qui disent non se basent sur un texte, c'est 1 Jean 1, verset 8, qui dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Et il dit d'ailleurs au verset 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et la parole de Dieu demeure en nous, n'est point en nous. Vous connaissez l'histoire de la femme adultère? L'histoire de la femme adultère, vous la connaissez? Que s'est-il passé? Comment ça se termine, cette histoire-là? Comment ça se termine? Pardon? Jésus dit à la femme, merci, va et ne pêche plus. Donc Jésus n'est pas réaliste. Jésus demande quelque chose qui est impossible. Pardon? Parce que vous pensez que l'adultère, c'est le seul péché qui existe? Retenez ça. Je vais vous poser la question tout à l'heure. L'apôtre Jean l'est encore moins, puisque lisons ce qu'il dit dans 1 Jean 2, 1. 1 Jean 2, verset 1. Allons-y. Bon, on va peut-être dire ça plus fort, parce qu'il faut que nous entendions tous. Mes petits enfants, dit Jean, je vous écris ces choses, pourquoi? afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. J'en dis que ce qui est normal, c'est que nous ne péchions pas. Mais si toutefois ça arrive, nous avons un avocat auprès du Père. Alors, j'aimerais illustrer ça d'une façon qui nous permettrait de comprendre, parce que nous sommes tous ici venant en voiture. Ce qui est normal quand on a une voiture, c'est de rouler avec 4 pneus bien gonflés. Oui ou non? Oui ou non? Bon. Mais il arrive, il peut arriver qu'il y ait une crevaison, oui ou non? Quand il y a une crevaison, qu'est-ce qu'on fait? On répare. Et qu'est-ce qu'on fait après? On roule, on recommence à rouler avec 4 pneus gonflés, oui ou non? Spirituellement, c'est exactement la même chose. Ce qui est normal, c'est que nous roulions avec 4 pneus gonflés, c'est-à-dire sans péché. Mais s'il y a une crevaison, si jamais il y a un péché, alors nous réparons, nous avons un avocat pour ça. Mais ce qui est normal, c'est que nous roulions sans péché. Mais la parole va plus loin que ça. Alors, soit on serait d'accord avec l'apôtre, si nous pas d'accord, vous allez le voir quand vous serez au ciel, vous demandez des comptes. Mais c'est lui qui dit ça. Il va plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Jean 2, verset 1. Pardon. 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. C'est ce que tu as lu là, hein? Ce que je viens de dire, c'est ce que tu as lu là. Bon, d'accord. Mais j'aime bien le texte, c'est parce que il dit même, il ne peut pécher. Il ne peut pas pécher s'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu, il ne peut pas pécher. C'est ce que l'apôtre dit là. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons hérité de nos premiers parents une nature pécheresse. Nous sommes nés avec un virus, le virus du péché. Et cette nature pécheresse fait que nous sommes incapables de ne faire que le bien. L'apôtre Paul le dit d'ailleurs dans Romains 7. Vous connaissez ce passage, et vous le citez certainement, où l'apôtre dit je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas. Donc, si, vous connaissez ce passage? Bien. Vous ne connaissez pas? Pardon? Oui? On va arriver pourquoi tout à l'heure? Oui. Vous pensez bien qu'on sortira. Il faut qu'on sorte d'ici, d'accord, hein? Il faut bien faire qu'on sorte d'accord ici. Bien. L'apôtre dit qu'il y a quelque chose, il a deux personnes en lui, il y a quelque chose qui est attaché à lui. Ce virus qu'on a hérité de nos premiers parents est là. Mais quand on a un virus, il peut se développer, il peut se développer ou non. Et même quand on parle parfois du cancer, un professeur disait, nous avons tous le cancer en nous. Il y en a qui se développent, d'autres qui ne se développent pas. D'accord? Cette nature pécheresse fait qu'il arrive que nous ayons une attitude, une pensée, une parole qui ne correspond pas à ce que Dieu attend de nous et qui même peut faire souffrir, avoir des conséquences négatives ou faire souffrir même ceux qui sont à côté de nous. Mais, cela doit être involontaire. La faute que j'aurais commise, le péché, la crevaison, est-ce que vous la voulez, la crevaison, là, quand vous voulez ? Dites, tiens, je voudrais bien avoir une crevaison aujourd'hui. Ça vous arrive, ça ? Ça vous arrive pas ? Non ? Bien, c'est ça. La faute, le péché que nous pouvons commettre ne peut pas être quelque chose de volontaire. Dans la Bible et pour Dieu, son disciple, le croyant, ne peut pas délibérément dire ou faire quelque chose en sachant que ce n'est pas bien, que c'est mal. Ça n'existe pas dans le texte biblique de péché volontaire. Et c'est pourquoi le texte nous dit que celui qui est en Christ ou en qui le Christ demeure ne peut pas pécher, parce qu'il ne peut pas le faire volontairement quelque chose qui est mal. Je disais que la parole de Dieu ne conçoit pas le péché volontaire chez le croyant. Là encore, c'est la Bible qui nous le dira. Je vous l'ai dit, mais je ne suis pas crédible, moi. Je ne suis pas crédible. Je peux vous dire quelque chose et... Bon. Mais si la Bible vous dit, j'espère, on a vu d'ailleurs que la Bible, elle dit vrai. On peut lui faire confiance. On va lire deux textes, deux, trois textes. Lévitique, chapitre 4, verset 2. Lévitique, chapitre 4, verset 2. Le premier qui a trouvé peut lire. Merci. Attends, reste là. Quelqu'un péchera comment ? Involontairement. Involontairement. Verset 13. Verset 13 du même chapitre, Lévitique 4. Merci. Quelqu'un, si toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, involontairement, et sans s'en apercevoir. Verset 22. Merci. Un chef de l'assemblée péché comment ? Involontairement. Verset 27. Donc, là encore, quelqu'un du peuple qui a péché, comment ? Involontairement. Quand on va au chapitre 5 du Lévitique, toujours, chapitre 5, le chapitre suivant, au verset 15. Allez-y, vous pouvez lire, si vous l'avez. Merci, on peut s'arrêter là. Là encore, on voit que quelqu'un, n'importe qui, que ce soit quelqu'un du peuple ou un chef du peuple, pêche, c'est toujours une question de péché involontaire. Nombre
chapitre 15, verset 22.
Nombre chapitre 15, verset 22. Si vous péchez comment ? Involontairement. Verset 24. Ouais. Péchez involontairement, même si l'Assemblée ne s'en aperçoit pas. Verset 25. Lévitique 5, 25. Nombre 15, 25, pardon. Qu'est-ce qui va se faire? Le sacrificateur Merci. Vous comprenez que dans la Bible, il n'existe pas pour le peuple de Dieu, pour le croyant, de péché volontaire. On ne pêche pas volontairement. Ah, pardon ? Oui. Dites-moi ce qu'il y a. Lévitique 5, 20. Oui, après la suite, lui-même la suite. Ouais. Donc, il paye pour sa faute. Mais attendez, on va y arriver tout à l'heure. Hein. On va y arriver tout à l'heure. Le plus grand péché qui pourrait être commis, c'est un meurtre. Deutéronome nous dit quelque chose d'intéressant. Deutéronome 19, verset 4. On donnait au meurtrier la possibilité, involontairement, car toujours involontairement, on lui donnait la possibilité de s'enfuir. Josué vint, et il pourra s'enfuir, le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement pourra s'enfuir. Pardon ? Comment ? Oui. Il s'enfuit. Ézéchiel 45, verset 20. Ézéchiel 45, verset 20. Par rapport à ce que vous disiez, mon frère, par rapport à ce que vous disiez, lorsqu'il y avait un péché volontaire, il y avait un sacrifice prévu. Un sacrifice prévu qui devait être offert par celui qui avait commis le péché et le sacrificateur pour que ce péché lui soit enlevé. Mais il n'y avait pas de sacrifice prévu dans le cas du péché volontaire. Parce que Dieu ne concevait pas qu'il y ait dans son peuple quelqu'un qui péchait volontairement. Il n'y avait pas de sacrifice pour ce péché. Il restituait ce qu'il avait. Non, pas pour celui qui avait péché volontairement. Je vais vous le lire tout de suite. Non. Pardon ? Oui, mais alors oui, mais pas pour celui qui avait péché volontairement. Pour celui qui avait péché involontairement. Mais on va lire ça tout à l'heure. Ne vous en faites pas. On va lire ça parce que vous devez vous demander, bien entendu, qu'arrivait-il à celui qui avait péché volontairement ? Et c'est la question que notre frère nous pose. Nombre 15, versets 30 et 31. Nombre 15, versets 30 et 31. Quelqu'un veut lire ? La main levée, c'est-à-dire délibérément, volontairement ou sciemment. Qu'est-ce qui se passait ? Il sera retranché au milieu de son peuple, verset 31. Donc, si quelqu'un, indigène ou étranger, agit délibérément, volontairement, sciemment, il outrage l'Éternel, celui-là, il sera retranché de son peuple. Pourquoi ? Parce qu'il a méprisé la parole de l'Éternel, méprisé parce qu'il la connaissait et qu'il agit sciemment contre ou en n'observant pas cette parole. Il a violé son commandement parce qu'il a fait ce qu'il savait délibérément être contraire à la volonté de Dieu. Celui-là sera retranché. Il portera la peine de son iniquité. Il n'existe pas dans la Bible de sacrifice pour le péché volontaire. Dans le psaume 66, que dit David ? Au verset 18, psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Parce qu'en fait, nous considérons parfois le péché est péché, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a qui est concret. Mais si ma soeur a son sac ici et que je convoite quelque chose dans le sac, est-ce que c'est un péché ou c'est un péché ? Parce que la convoitise, c'est elle qui va engendrer le péché jusqu'à ce que je l'ai pris. Le péché est en amont. David, il va plus loin, il dit, mais si j'avais conçu l'iniquité, le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Je vais lire encore un texte parce que je voudrais que nous soyons bien d'accord sur ça, dans le Nouveau Testament. Parce que généralement, on nous dit, mais ça, c'était l'Ancien Testament, et que maintenant, avec Jésus, depuis que Jésus est venu, les choses ont changé, et bon, ok. Je vous invite à ouvrir le Nouveau Testament, dans Hébreux, chapitre 10. Versets 26 et 27. Si nous péchons volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. En Israël, il n'existe pas, dans la Bible, il n'existe pas de sacrifice pour le péché volontaire. Ça n'existe pas. Dieu ne conçoit pas que dans son peuple, il y a quelqu'un, homme ou femme, même l'indigène, qui fasse délibérément quelque chose qui soit contre sa volonté. Ça n'existe pas. attendez, on va venir. On va venir. Je vous ai dit qu'on soit d'accord ici. Je vous ai dit, il faut qu'on soit d'accord ici. Déjà, pour commettre un péché volontaire, d'accord, il y a souvent de la préméditation. La préméditation. Celui qui est en relation avec Dieu, lorsque le désir du péché ou l'intention du péché volontaire naît en lui, celui qui est en relation avec Dieu, il y a quelque chose qu'on appelle, quelqu'un qu'on appelle comment ? Le Saint-Esprit, qui est là pour convaincre de quoi ? De péché, de justice et de jugement. Et il va vous faire comprendre. Non, mon frère. Le péché prend naissance là. Là. Au cas de ? Oui, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est le texte que je voulais, par lequel je voulais terminer. Mais David va payer toute sa vie de la conséquence de ce péché. OK ? D'accord. OK ? Donc, et ce que Dieu veut, justement, c'est que nous n'ayons pas cette vie de remords pendant toute sa vie. Que nous n'ayons pas cette vie de repentir, d'insatisfaction pendant toute sa vie. Mener toute sa vie le souvenir d'un meurtre, d'une mort dont il est responsable, son enfant. Le Seigneur ne veut pas ça. D'accord ? Alors nous sortirons d'accord ici. OK. Alors, ouais. Absolument. Donc nous sortirons d'accord, c'est ça qui est important pour moi, que nous sortirons d'accord ici. Mais, remarquez que si vous n'êtes pas d'accord avec les textes, vous avez toujours la possibilité de demander à Jean ou à Paul, quand vous le verrez, pourquoi tu as dit ça ? Est-ce que... Mais pour l'instant, nous lisons le texte tel qu'il est. Et comme nous l'avons dit le premier jour, la parole de Dieu, nous devons la prendre au sérieux. Nous devons la prendre au sérieux. Ce n'est pas une plaisanterie. Je ne peux pas sortir d'ici, ce soir, en délibérément, en disant du mal de mon frère ou de ma sœur. Sachant que ce n'est pas bien. Je ne peux pas sortir d'ici ce soir en disant, frère ou tel ou second tel, moi je ne veux pas lui parler, ce n'est pas bien. Non. Je ne peux pas plus tard venir dire, ah oui, mais dire du mal, porter un faux témoignage. Non. Volontairement, non. Le Seigneur ne comprend pas ça. Il n'accepte pas ça. Et quand on parle, quand on dit que l'Église est l'Église de Dieu, oui, elle est l'Église de Dieu. Lorsque cette Église, son peuple, vit conformément aux enseignements de Dieu. Parce que nous pouvons avoir notre nom sur un registre d'Église. Et nous, je pense que nous l'avons tous, notre nom. Mais le fait d'avoir notre nom sur le registre d'Église ne nous sauve pas. Vous êtes d'accord avec ça, au moins ? Vous êtes d'accord avec ça ? Bon. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Tu lis un peu plus froid parce qu'ils tendent l'oreille là, il y a ceux qui n'ont pas de Bible. Merci. Nous parlons souvent de la conversion du cœur, en parlant du cœur. Mais ce que Dieu veut, c'est ça, que notre disque dur change, qu'il soit reprogrammé. Conversion de l'intelligence. L'apôtre Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Il faut, pardon, le verset 27 ? Ben, oui, le verset 27 ? Oui. C'est lui qui le fera, pas moi. La présence de Dieu, du Christ en moi, doit me conduire à cela, à marcher selon la volonté de Dieu. Vous voyez que je peux dire que j'ai Christ en moi quand je mens sur les autres, que j'ai Christ en moi quand je dis du mal des autres, quand tout ce que vous pouvez mettre dedans. Vous croyez que Christ, on peut dire ça, Christ en moi? Non. Non. Oui. Aucun de nous. Oui. Absolument. Je vais prouver. Absolument. C'est pourquoi il veut changer ça. C'est pourquoi il veut changer ça. Il veut changer ça. Il faut que nous nous reprogrammions avec la parole de Dieu. On va lire un texte, peut-être que ce sera le dernier, parce que je vois que l'heure est arrivée. Jésus dit d'abord, dans Luc 6, que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais que tout disciple accompli devient comme le maître. Comme le maître. Vous imaginez Jésus disant du mal des autres, faisant du tort aux autres, allant voler, commettre l'adultère, oui. Vous imaginez ça, Jésus? Comme son maître. Et je dis, j'ai parlé du disciple, parce que on parle souvent de chrétien, mais j'aime pas le mot chrétien. J'aime pas ce mot-là. Quand les autres nous appellent chrétiens, je veux bien. Parce que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Mais je n'aime pas ce mot-là. Parce que tout le monde, pourquoi ? Ah ben, bonne question. Parce que tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Mais si tous les disciples de Jésus ont été appelés des chrétiens, d'ailleurs, c'est un mot païen. Hein, c'est l'empereur qui a appelé les disciples chrétiens. Ce mot n'existe que deux ou trois fois dans la Bible. Jésus n'a jamais dit qu'il venait faire des chrétiens, il venait faire des disciples. Et permettez que je vous dise que si vous prenez un catholique qui se dit chrétien, un témoin qui se dit chrétien, un évangéliste qui se dit chrétien, un luthérien qui se dit chrétien, vous les mettez ensemble, c'est Babylone. C'est Babylone, hein ? Incapable de sanctifier le sabbat ensemble, incapable de prier ensemble, le même Dieu. Parce qu'un va prier Marie, un va prier Dieu. Babylone. C'est Babylone. Je ne vais pas plus loin sur ce terrain-là, mais c'est uniquement pour vous donner une petite idée de ça. Nous devons être ce que le Christ veut que nous soyons. Des disciples. Le disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui adhère à la pensée, à la philosophie, à la mentalité du maître. Pensez aux disciples de Marx, par exemple. Ils ne juraient que par Marx. Tout ce que les autres pouvaient dire, nul, non avenu. Marx a dit. Voilà le disciple. Je propose un dernier texte, Romains chapitre 6, versets 1 et 2. Romains, on va lire peut-être plusieurs versets. Alors, 1 et 2 d'abord. Romains 6, 1 et 2. Alors, quelqu'un va lire ça à haute voix, prendre le micro, il est où? Ah oui, voilà. Quelqu'un qui a le micro, lisez-moi ça à haute voix, Romains 6, versets 1 et 2. Mais il est ouvert parce que il parle. Ah, c'est bon? Oui, ça y est.
Sans fil. Merci. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?
Verset 11. Ça fait dire combien ? Verset 11. Toujours le même chapitre.
Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ.
Verset 12.
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises.
Verset 13.
Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice.
Le dernier verset 14.
Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce.
Voilà. Voilà où le Seigneur nous attend. Que le Seigneur trouve dans cette ville du tampon une église de disciples. Une église où on a horreur du péché. Et où on a intégré dans son esprit la notion d'une vie sans péché. Parce que nous disons, oh oui, nous sommes faibles, la chair est faible, et on se donne des excuses pour pécher. Non, c'est fini ça. C'est fini. Pas d'excuses. Il n'y a pas de chair faible. Parce qu'il y a une puissance en nous, le Saint-Esprit est plus fort que ça. Puisse le Seigneur nous aider à vivre, non pas comme nous voulons, mais comme lui veut. C'est ma prière pour chacun de vous ce soir.